Chers amis, frères et sœurs, nous sommes heureux d'avoir toujours avec nous le Seigneur et le Saint-Esprit et la Bible. Et avec ces trésors qui ne sont pas comparables à aucun autre trésor du monde, nous avons un pont, nous avons une échelle entre le ciel et la terre. Nous allons donc ouvrir la Bible, puisque le titre de la méditation, c'est la Pentecôte, un nouveau temps à vivre. On va ouvrir la Bible dans les Actes des Apôtres, c'est-à-dire après la Pentecôte. Actes des Apôtres, chapitre 3, verset 1er. Tout le monde m'entend bien. Acte 3, verset 1er. Pierre et Jean, donc des apôtres, montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit « Regarde-nous ». Et il les regardait attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit, « Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. » Et le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout. Et il se mit à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Tout le monde le vit marchant et louant Dieu. Amen. Nous allons prier le Seigneur avant de méditer ce texte pour qu'il entre dans nos situations de vie d'aujourd'hui. Seigneur, que ta parole pénètre nos vies, nos pensées, nos affaires personnelles, nos attentes, nos détresses, nos joies. C'est un message de relèvement, c'est un message de force, de lumière que tu veux faire passer dans notre cœur aujourd'hui, en ce jour de Pentecôte où tu nous dis « Je viens habiter chez vous, en vous ». Merci pour la parole de ce jour. Par Jésus-Christ le Seigneur. Amen. Pentecôte, un nouveau temps à vivre. Commençons par le boiteux du temple. Dommage, hein ? C'est 3 ans qu'il entend parler de Jésus. Il habite à Jérusalem. Ça fait 3 ans qu'il voit les apôtres. Il est toujours à la porte du temple, toujours la même. Il a manqué le passage de Jésus. Il a raté l'occasion de dire « Seigneur Jésus, je suis boiteux, infirme, handicapé, aie pitié de moi. » Tellement occupé à mendier, à regarder les yeux des gens, il a manqué Jésus. Et Jésus est reparti au ciel. Il n'est plus sur terre. Mais Jésus n'a pas manqué cet homme. Jésus n'oublie personne. Jésus est attentif à ceux qui sont restés sur le bas du côté de la route, dans le fossé, et personne ne les regarde. Jésus n'a pas manqué cet homme. Mais que va-t-il faire sans Jésus ? Jésus est parti. Quelle miséricorde remplacera Jésus ? Quelle force remplacera Jésus ? Un apôtre, un ange, Jésus, l'incomparable. Cet homme est condamné à rester ainsi, comme un malheureux dans le désert qui ne voit pas arriver le bonheur. C'est la parole de Jérémie, un malheureux dans le désert qui ne voit jamais arriver le bonheur. À part ses amis qui l'apportent au temple, qui le mettent sur le perron du temple, à part ses amis qui le placent là comme un ballot et qui le reprennent le soir. Ah, enfin, deux hommes s'arrêtent devant lui et lui disent une parole qu'il n'entend pas souvent. « Regarde-nous !» En général, quand on donne quelque chose à un mendiant, on jette dans l'écuyelle et puis on ne regarde pas. Il n'y a pas de relation. Et eux, ils disent « Regarde-nous !»« Je n'ai ni argent ni or. » Ça commence mal, hein. C'est un peu comme nous, parfois, on dit « J'ai pas de monnaie. »« Je n'ai ni argent ni or. » Mais en fait, même s'ils avaient l'argent et l'or, ça ne pourrait pas redonner des jambes à ce malheureux. Est-ce que l'argent et l'or peuvent rentrer dans un cœur et changer une conscience, donner le bonheur? L'or et l'argent ont des limites. « Je n'ai ni argent ni or. » Ça ne répond pas à tout. Mais la parole qui suit, elle est différente. « Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche !» Tiens, on a déjà entendu ces paroles-là dans tous les évangiles, « Lève-toi et marche !» On a l'impression que l'histoire n'est pas finie. Il y a encore des gens un peu fous pour dire « Lève-toi et marche !» Reprends ta vie, reprends en main ta destinée. Mais cette parole « Lève-toi et marche », elle est remplie d'autorité, elle est remplie de générosité, elle est remplie d'espérance. C'est une parole qui remet en route. C'est le Saint-Esprit qui, à travers les apôtres, à travers Pierre et Jean, c'est le Saint-Esprit qui passe dans le cœur de ce malheureux. Oui, Jésus est resté sur la terre par son Saint-Esprit pour toujours. Oui. David, il y a 3000 ans, disait « Je vois le Seigneur constamment devant moi, constamment. » Et je dois dire, Jésus est constamment sur la terre. Jésus est constamment à l'œuvre pour vous chercher, pour vous récupérer, pour vous donner de la vie. Le Saint-Esprit sur la terre, c'est la présence de Jésus, c'est la présence de Dieu. Et l'homme se lève d'un bond, sans rééducation, comme j'aime le dire, après 40 années où il est assis, mal à l'aise, il est remis, il est consolé, il est remis en Dieu, il entre dans le temple, comme au temps des évangiles. On a le sentiment que l'évangile continue, que Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est écrit dans la Bible. Oui, une consolation dans nos épreuves, voilà ce que nous donne le Saint-Esprit. Mais ce n'est pas tout. On va continuer l'histoire sans que vous cherchiez dans votre Bible avec l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre est jeté en prison. Je ne connais pas tellement d'hommes de Dieu qui ne soient pas maltraités. Il est jeté en prison, jeté, c'est brutal. Et il doit être mis à mort demain, parce que demain c'est Pâques. Et Hérode veut le faire mourir, décapiter. L'apôtre Pierre, on est sûr de rien, rien n'est jamais fait d'avance. Surtout que quelques jours avant, l'apôtre Jacques a été tué par l'épée, décapité par Hérode, qui rendra des comptes. L'apôtre Jacques a été décapité. Et puis, comme on ne sait jamais avec les chrétiens, on a mis l'apôtre Pierre dans une prison entourée de 16 soldats. C'est pas trop. Avec des chrétiens, il faut toujours faire attention. Ils peuvent disparaître, ils peuvent ressusciter, ils peuvent changer. Mettons 16 soldats, avec deux soldats qui sont enchaînés autour de Pierre. C'est pas trop. Et puis deux soldats qui montent la garde devant la porte. C'est pas trop non plus. Moi, je dirais un régiment, ça n'aurait pas été trop. Parce qu'on ne sait jamais ce que le Seigneur peut faire avec ses serviteurs. Amen. Et lui, Pierre, il dort. Ça vous choque? Moi, je l'appelle le dormeur de l'Évangile. Quand Jésus est dans l'agonie, dans le jardin des oliviers de Gethsémané, il dort. Quand Jésus est transfiguré sur la montagne, il dort. Quand il va mourir là dans quelques heures, il dort. C'est le dormeur du Val, le dormeur des Évangiles. Il dort pourquoi? Peut-être qu'il est confiant. Moi, je dis qu'on peut dormir parce qu'on a confiance. La confiance dans son mari, dans sa femme, dans ses enfants, la confiance dans les autres. On est reposé, on dort. On peut dormir aussi parce qu'on est peut-être aussi fatigué ou parce qu'on est inconscient, insouciant. Insouciant que demain, Pierre, tu n'auras plus de tête, tu seras décapité. Peut-être que quelqu'un de pas très gentil aurait dit, tu vois, tu n'as pas défendu Jésus il y a un an quand il a été devant le tribunal. Tu n'as pas défendu Jésus. Tu as renié Jésus et maintenant toi, Jésus, eh bien, il ne te défend pas. Pierre est là, il attend la mort en dormant. Et voilà que un ange entre dans la prison. Le gardien ne voit rien. L'ange entre dans la prison. Porte fermée, l'ange entre. Et Pierre dort toujours. Si quelqu'un rentrait dans ma chambre la nuit, je pense que je sentirais une présence, pas vous? Il dort. Une lumière éclaire toute la chambre. Il dort toujours. Quand on met la lumière, ça me réveille à chaque fois. Il dort toujours. Et l'ange est obligé de frapper Pierre au côté. Bam! Obligé de lui parler, tellement Pierre est endormi, assoupi, et Pierre se réveille. Ah ! Et les chaînes tombent de ses mains. Et l'ange lui dit, lève-toi Pierre. Ah bon ? Il se demande s'il ne rêve pas, il est encore endormi. Mets ta ceinture, mets tes souliers, mets les lacets à tes souliers, mets ton manteau, il faut tout lui dire. On a l'impression qu'il est ailleurs. Alors que le Seigneur est en train de le délivrer. Parce que le Saint-Esprit, il nous a été dit qu'il serait notre défenseur, il serait notre bouclier, notre avocat. Le Saint-Esprit nous fait sortir, c'est la présence de Jésus, le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous fait sortir de situations dans lesquelles nous sommes enfermés, comme en prison, sans espoir. Une maladie, une solitude, une dépression, on se sent abandonné, on se sent retenu dans la mort, incapable d'espérer, de vivre, de changer. Le Saint-Esprit est un défenseur, il nous défend des injustices. Mon père et ma mère m'abandonnent, dira un psaume, mais le Seigneur me recueillera. Jésus disait, je vous enverrai le consolateur, le défenseur, l'avocat, parce que votre vie est exposée au mal, au danger, au lion, aux trahisons, aux abandons, aux détresses. Il n'y a pas un jour qui ne soit un jour de parfait bonheur. Il y a toujours une déception, il y a toujours une parole qui blesse, il y a toujours une espérance déçue. Alors je vous envoie un consolateur pour vous dire prenez courage, je suis plus fort que le monde, plus fort que tout ce qui est contre vous, prenez courage. Et Pierre s'est retrouvé dehors, libéré, parce qu'il y a eu un défenseur. Et je crois, en revenant à nous, le Saint-Esprit nous défend de tout ce qui voudrait nous retenir toute la vie, courbés, les yeux baissés sur la terre. La tristesse chevillée au cœur, Saint-Esprit nous libère. Amen. Merci au Seigneur pour l'envoi du Seigneur, Esprit de Dieu. Continuons encore un peu avec Pierre. Saint-Esprit, je dirais, une force dans nos faiblesses. Ça se passait à Joppé, Jaffa, Joppé. On mange avec délice les oranges de Jaffa. C'est au bord de la mer, de la Méditerranée. Et j'ai l'impression que quand on est à Joppé, j'ai l'impression qu'au bord de la mer, on ne pense plus au travail, on ne pense plus aux apôtres, on ne pense plus à la souffrance. Au bord de la mer, tout semble beau, non ? Tout semble beau, la terre tourne, tout va bien, il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien. Et à Joppé, il y avait une femme, il y avait des femmes qui étaient quand même remarquables, dont une qui s'appelle Dorcas. Elle avait un premier nom, Tabitha, et un deuxième nom grec, Dorcas. Et Dorcas, ça veut dire gazelle. Joli comme prénom. Vous pourriez appeler votre prochaine fille Dorcas. Et cette petite Dorcas, c'était une travailleuse. Elle faisait des vêtements, des tuniques, des manteaux. Pas pour en faire une multinationale, parce qu'elle le donnait aux pauvres, elle faisait des belles œuvres. Ça me fait penser à cette parole du livre des Proverbes, la femme qui active, Proverbe 31, vous lirez, c'est magnifique. Cette femme, elle est comme un navire marchand qui se procure la laine, le lin, et qui travaille d'une main joyeuse. Ça, c'est Dorcas. Et puis Dorcas est tombée malade. C'était l'ami de Jésus, c'était l'ami des apôtres. Et les chrétiens aussi sont malades. Ils peuvent connaître des tragédies. Si Jésus avait été là, il n'est plus là. Il n'est plus sur la terre. On l'aurait emmené en Galilée, on l'aurait emmené à Jérusalem. On aurait fait le voyage avec elle et Jésus l'aurait guéri, mais il n'est plus là. Et elle perd ses forces. On a même envoyé quelqu'un chercher l'apôtre Pierre et qui dit à Pierre, « Viens vite, sans tarder, dépêche-toi, vite, Dorcas va mal. » Elle perd ses forces, elle meurt. Dorcas, la travailleuse, la butineuse, la gazelle, la femme qui œuvre dans la première église auprès des apôtres, elle meurt, on la lave. On la met dans une chambre à l'étage, il n'y avait pas beaucoup d'étages à l'époque, la chambre haute comme on l'appelait. Et puis les veuves qui l'ont lavée, qui l'ont habillée, elles pleurent. C'est un moment de tristesse, avec probablement au fond de leur cœur cette pensée, « Ah, si Jésus avait été là, si Jésus était là, comme au temps de la petite fille de Jaïrus qui l'a relevée d'un seul mot, comme au temps de Lazare qui l'a fait sortir de la mort d'un seul mot. Ah, s'il était là !» Et Pierre arrive tout essoufflé. Il arrive dans la maison du deuil, c'est trop tard. Dorcas est décédé. Et Pierre fait sortir tout le monde, comme Jésus avait fait avec la fille de Jaïrus, fait sortir tout le monde, puis se met à genoux devant Dorcas qui est sur son lit. « Lève-toi, petite gazelle, travailleuse de la première église. » Oui, le Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus est avec nous. Oui, le Saint-Esprit qui donne la vie à Jésus connaît nos corps souffrants, nos esprits souffrants, notre âme en peine, en chagrin, bloquée, arrêtée, comme un train en pleine voie. Le Seigneur connaît tout ça. Et il peut faire redémarrer le train de la vie. Jésus disait, je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas sans appui, sans secours, sans aide. Vous m'invoquerez et je vous répondrai. Merci au Seigneur. Amen. Oui, le Saint-Esprit, c'est la présence de Dieu. Le Saint-Esprit, c'est la présence de Jésus. Restez constamment au milieu de nous. Amen. Continue encore un peu, en parlant non pas de Pierre, on va le laisser un peu se reposer pour le week-end. On va parler de cet homme qui est venu un jour à Jérusalem, qui était quand même un homme important, qui n'était pas juif. C'est un ministre éthiopien. Vous connaissez peut-être l'histoire. un ministre éthiopien étranger converti au Dieu d'Israël. Converti au Dieu d'Israël. C'est un grand pas déjà. Et il vient à Jérusalem pour adorer, pour aller au culte, aller dans le temple. Mais, personne ne lui parle de ce que Dieu a fait à Jérusalem. Quoi ? Qu'est-ce qu'il a fait à Jérusalem ? Il a fait plus que d'ouvrir la mer Rouge. Il a fait plus que de donner de la manne. À Jérusalem, il a donné son Fils unique et il l'a ressuscité des morts et personne ne lui en dit un mot. Il arrive dans la ville la plus formidable du monde à l'époque et c'est le silence sur cet homme qui est un homme sérieux, sincère, chercheur, avide, assoiffé. Personne lui donne la véritable eau, l'eau vive. Et il retourne chez lui. Il faut bien que ça arrive un jour. Il ne reviendra peut-être jamais à Jérusalem. Il a raté. Il a manqué. On ne lui a rien dit. Il repart et il est passé à côté de la plus belle histoire. Jésus. Jérusalem, pourquoi il n'a pas entendu parler de Jésus ? Il n'y a pas un chrétien. Ils sont tous partis. En week-end. Non, pas en week-end. Plus grave que ça. Ils sont persécutés à cause de la... Pas de l'apôtre Paul, de Saul, futur apôtre. Ils sont persécutés. Ils sont tous partis dans la campagne. Ils sont tous partis jusque au Liban et en Syrie. Partout. Sauf les apôtres qui se cachent. Une persécution contre les chrétiens de Jérusalem. La ville est vide. Vide de chrétiens. Peut-être que vous aussi, vous avez l'impression d'être seul au monde. Il n'y a pas un signe d'amitié. Il n'y a pas un signe d'attention. Il n'y a pas un petit SMS. Vous n'entendez pas une parole de réconfort. Une parole qui vous laisse la parole. Vous n'avez rien. Personne ne connaît le trouble de votre cœur, les angoisses que vous avez à cause de votre maladie. Et vous n'osez pas le dire à votre femme, à votre mari, à vos enfants. Et lui, il est un peu dans cette situation. Il ne reçoit aucun message pour lui dire « tu peux aller plus loin si tu veux ». Il s'éloigne de Jérusalem. Oh, qui va l'arrêter ? Résidence de Dieu, la plus belle ville, la beauté parfaite, comme disent les psaumes. Et voici qu'un ange du Seigneur, on n'échappe pas comme ça à Dieu, il vous cherche aussi, vous savez. Un ange du Seigneur va parler à Philippe, ce n'est pas un apôtre, c'est un diacre. Il va parler à Philippe, et il va lui dire, lève-toi Philippe, va sur le chemin de Gaza, va sur le chemin du désert. Désert. Il y a un homme, lui qui est habitué à parler aux foules, il y a un homme sur le chemin du désert. Va vite, approche-toi de lui. Et Philippe, comme j'aurais fait certainement, il est parti, il a couru sur ce chemin de Gaza qui mène vers l'Égypte et l'Éthiopie. Et puis il voit un char au loin et le Saint-Esprit lui dit, à Philippe, regardez comme sur la terre on n'est pas seul, sur la terre on est repéré par Dieu, Dieu sait où on est, Dieu sait où on va, Dieu sait d'où on vient, Dieu sait ce qu'on a vécu hier ou il y a deux jours. Et le Saint-Esprit dit dans l'oreille de Philippe, approche-toi de ce char. Il court, un char ça va vite un char, il y a des chevaux et il court. Un bon coureur, Philippe, coureur de marathon. Il approche du char. Il entend le ministre qui lit dans son char. Il lit le prophète Ésaïe, Ancien Testament. Il lit le chapitre 52. Il a été mené comme une brebis muette devant ceux qui le tondent. Il n'a pas ouvert la bouche comme un agneau, etc., etc. Il lit à voix haute le ministre. J'aimerais bien voir les ministres lire à voix haute, pas vous, la Bible dans les trains, dans les avions, partout. Et puis le Philippe qui dit au ministre, est-ce que tu comprends ce que tu lis au moins? Comment pourrais-je comprendre? Il n'y a personne qui me guide, Jérusalem est vide, il n'y a personne à Jérusalem. Et le ministre, et Philippe, pardon, explique au ministre, cet agneau, cette brebis muette, c'est le Fils de Dieu, envoyé par Dieu pour mourir pour toi, ministre éthiopien, couvert d'or et d'argent, et mourir pour le plus pauvre comme pour le plus riche, mourir parce que nos âmes n'ont pas de richesse, nos âmes n'ont qu'une richesse. C'est l'amour de Dieu. Notre seul bien, c'est d'être aimé de Dieu. Et le ministre, il croit, tout simplement, comme moi-même j'ai cru un jour, tout simplement, en quelques secondes, dès que j'ai entendu l'évangile, j'ai cru, sans comprendre, mais sans me poser de questions. Je crois, dit-il, le ministre, je crois que Jésus, maintenant, est le Fils de Dieu. Oh, c'est beau. Le Saint-Esprit était là, à la recherche de sa brebis perdue. Les temps n'ont pas changé. La Pentecôte, c'est la continuité de Pâques. La Pentecôte, c'est la continuité de temps des évangiles. La Pentecôte, ça veut dire « ça va continuer ». Le bon berger va à la recherche de sa brebis perdue. Le père attend le fils prodigue. La femme attend son mari. Le mari attend sa femme. Et pendant que Philippe, l'homme simple, le diacre de l'Église, pendant qu'il explique le Saint-Esprit, il convainc le cœur du ministre. Le ministre aurait pu lui dire « Qu'est-ce que tu es, toi ? Tu n'as même pas de char, tu n'as même pas de cheval. » Tu es un simple diacre, un serviteur. Diacre, ça veut dire serviteur. Tu n'es qu'un simple serviteur. Il écoute, il se laisse convaincre, il se laisse saisir, il se laisse prendre par la main de Dieu qui, à travers Philippe, se pose sur lui. Il est convaincu et il est baptisé. On a un baptistère là qui est en cours, là, qui bientôt finit. Il n'y a pas de baptistère, il n'y a rien. Ah, il y a une mare là. Ben, le ministre des Finances de la reine Candace, reine d'Éthiopie, ministre des Finances, il va enlever sa belle toison, il va enlever ses anneaux, ses bracelets, et son or et son argent, et il va baptiser là, tout seul, devant peut-être des chameaux et des ânes. Il va être baptisé là, avec le diacre Philippe, en pleine campagne, en pleine nature, en plein désert. Et cet homme va repartir chez lui, en Éthiopie, avec Dieu dans son cœur. Et on sait que l'Éthiopie va connaître un temps de réveil chrétien à cette époque. Merci pour le ministre, amen. Merci pour ce personnage mystérieux qui s'est si bien converti. Et ça, c'est le Saint-Esprit. Je viendrai à vous, dit Jésus en partant. C'est étonnant. Hein? Il s'en va, puis il dit, je viendrai à vous. Je vous enverrai le Consolateur. Saint-Esprit nous apporte la présence de Jésus. Le Saint-Esprit nous apporte la parole de Jésus, la force et la grâce de Jésus. Aujourd'hui, comme au temps des évangiles, ça n'a pas changé. La consolation dans les épreuves, c'est le Saint-Esprit qui nous la donne. Comme Pierre, comme avec ce boiteux. La défense devant les adversités de la vie, comme Pierre en prison, c'est le Saint-Esprit, c'est Dieu qui nous le donne. La force dans nos faiblesses, comme Dorcas, là sur son lit, de maladie, d'agonie, de deuil, de mort, la force dans nos faiblesses, c'est le Seigneur, c'est l'Esprit, c'est Dieu qui nous donne toutes ces choses. Puis une présence dans un chemin désert. Regardez ce ministre tout seul, là, tout seul dans le désert, il parle, il n'y a personne qui répond, Saint-Esprit entend. Vous parlez peut-être tout seul, tout seul. Vous êtes seul et vous réfléchissez, et personne ne vous écoute, et personne ne prête l'oreille, et personne ne voit ce que vous vivez. Le Seigneur le voit. Il y a une présence sur votre chemin désert. Une présence qui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Où vas-tu? Je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Je viens à toi et je te prends par la main. » Continue, lève-toi, va en paix, va dans la paix, va avec ma paix dans ton cœur. C'est un esprit qui fait ça, c'est le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons prier ensemble le Seigneur. Nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous ne sommes pas orphelins de notre Père, orphelins de notre Seigneur. Tu es resté avec nous. Tu as établi ta résidence chez nous. Tu es accessible, proche, attentif. Tu es là. Comme dit David, ton serviteur d'autrefois, j'ai constamment le Seigneur devant les yeux. Tu es là. Quand nous sommes seuls, tu es là. Quand nous sommes au bord du précipice, tu es là. Seigneur, interviens pour ceux qui sont dans les épreuves. Interviens pour ceux qui sont sans force, dans une faiblesse extrême, moralement, physiquement. Interviens pour ceux qui sont en prison. En prison, à l'intérieur d'eux-mêmes. Interviens, Seigneur, pour tous ceux qui te cherchent, comme ce ministre. Agis, je t'en prie, agis maintenant, envers moi, envers tous mes amis présents, au nom de Jésus. Amen. Le Seigneur est là. Il ne faut pas que ce que vous voyez vous distrait. Une église est faite pour accueillir des gens dans la prière, c'est tout. Mais le Seigneur est là. Le Seigneur a dit, quand deux ou trois sont rassemblés pour moi, je suis au milieu d'eux. C'est beau, hein? Je suis au milieu d'eux. Je n'ai pas l'audace et la folie de dire « Oh, j'ai un doute ». Non, c'est de la folie de dire ça. Non, il est au milieu de nous. Alors, vous avez vu ce qu'il a fait après la Pentecôte? Vous avez vu ce qu'il fait avec ces hommes-là du premier temps? Ben, c'était pareil au IIIe siècle, au XVIe siècle, c'était pareil hier, aujourd'hui, et ce sera pareil demain. Dieu s'intéresse aux hommes. C'est la passion de Dieu. Passion folle, passion d'amour, passion qui le conduit à souffrir, à mourir, à ressusciter, à continuer. C'est fou, hein? Mais c'est ça.